Mickaël Monvoisin, correspondant environnement pour l'agence bretonne de l'Office national des forêts.
Denis Robert, je travaille à l'Office français de la biodiversité.
Et Sébastien Gervais, chargé d'études à la LPO Bretagne.
Donc, en transition avec l'agriculture, qui est intimement liée à la biodiversité, maintenant nous allons parler de l'avenir, en fait.
Et ça pourrait passer par quoi, ce changement ?
Une prise de conscience que l'humain, c'est pas n'importe quoi, n'importe qui. C'est une grande mutation pour moi qui nous attend. On n'imagine pas ce que c'est, mais je pense que c'est une énorme mutation, des consciences. Alors il y aura de tout, évidemment. Il y aura des gens qui vont mal réagir, d'autres qui réagiront très bien. Mais il va y avoir un sacré écrémage, forcément. Je pense que l'humain, pour moi, l'être humain dans son évolution, il n'est pas encore sorti du stade adolescent. On n'est pas encore adulte. On veut tout de suite, comme un ado, quoi. On nous a habitués à ça, on nous a formatés pour ça. On ne sait plus attendre. Voilà, donc quand on ne sait plus attendre, on consomme énormément, puisqu'on veut tout de suite. Que ce soit un frigidaire, que ce soit les vacances.
Tu peux le remettre ?
disons qu'on est plus là dans un rapport à la... dans ce qui vient d'être dit, dans un rapport à la consommation et aux impacts de la consommation sur l'environnement, que dans un rapport purement biodiversité. Donc effectivement, là, on va pouvoir aller sur des concepts de notion de développement durable, par exemple, l'idée de continuer à accroître notre consommation sur une planète qui a des ressources par définition finies. On va aborder d'autres concepts philosophiques, mais qui n'ont pas forcément prise directe sur la biodiversité.
Ouais, c'est perturbant, parce que c'est vrai qu'on est, nous, c'est notre métier, on est confronté en permanence à des déceptions, hein. L'environnement, c'est un métier difficile à encaisser au quotidien, parce qu'on, depuis 30 ans, c'est beaucoup, beaucoup de déceptions. J'écoutais Alain Beaugrain-Dubourg l'autre jour qui disait, que lui, c'est un des pionniers à la protection de la nature en France, et j'avais bien aimé sa phrase, il disait, aujourd'hui, on n'a plus de victoire, on évite juste des défaites. Et cette phrase-là, elle est forte, hein, parce que lui, il a connu les grandes victoires, il a connu les premières lois de protection de la nature des années 76, il a connu les premiers grands parcs naturels en France, les grandes réserves. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de mettre des pansements et on est en train de juste faire appliquer la réglementation quand on peut. Et c'est vrai que c'est pas, tout ça, c'est pas très optimiste, hein, pour l'avenir. Donc il faut aussi qu'on, dans cette émission, hein, et dans la vie en général, il faut qu'on garde quand même un petit peu d'espoir et un peu d'optimisme. Nous, notre rôle, c'est vrai que... c'est notre quotidien, la protection de la nature. Des fois, on est un petit peu aussi en microcosme, on parle entre nous, on est un peu spécialiste de groupe, on a du vocabulaire un peu compliqué parfois. Mais c'est vrai qu'on est, je pense qu'il faut pas oublier qu'on est juste des passeurs. Quelquefois, moi, je sais qu'on se donne trop de responsabilités pratiquement et ça peut nous impacter psychologiquement, moralement, mais on est, je pense, juste des passeurs. Et l'avenir, c'est pas nous, hein. L'avenir, ça va être les jeunes. Et je trouve qu'on n'investit pas assez sur les jeunes. Moi, quand je vois les réformes gouvernementale sur l'éducation qui arrive à chaque nouveau gouvernement, à chaque nouveau ministre. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, avec cette ampleur, enfin, le constat du désastre depuis 30 dernières années, avec les risques sanitaires, on voit bien que maintenant, ça commence à impacter réellement l'espèce humaine et j'espère que ça va faire réagir enfin. Mais je trouve que ça devrait être obligatoire d'avoir des cours d'éco-citoyenneté, d'écologie, mais dès la maternelle. Il faut que les réflexes se prennent là. Alors, la dame, elle parle de consommation, etc. C'est trop tard. On est pourri. On est tenté, le verre est dans la pomme, quoi. Pour nous, c'est foutu. Mais chez ces jeunes, il faut vraiment investir un maximum. Et tant pis s'ils savent plus, je vais me faire des ennemis, mais tant pis s'ils savent plus à quelle date a été couronné Charlemagne. Aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est quelle est la réglementation sur les oiseaux et les reptiles et comment on les protège. Ça, je pense, ça va devenir vraiment primordial à plein d'autres sujets.
Ouais, l'éducation, l'environnement, c'est un peu le parent pauvre. C'est vrai que j'étais animateur pendant longtemps. Même au sein des structures, l'animateur n'était pas considéré que le chargé d'études. Et c'est vrai que ça a changé, heureusement, parce que c'est un vrai métier. C'est un vrai métier qui demande du savoir-faire en termes de pédagogie. C'est un métier qui permet de construire des projets avec les enfants, avec le grand public. Et c'est ça qui est important, plutôt que de la sensibilisation de masse, c'est aussi changer en profondeur. Et c'est vrai que, comme tu disais, c'est les enfants, notre avenir, c'est un peu bateau de dire ça, c'est un peu nunuche de dire ça, c'est vrai, mais en même temps c'est la réalité. Je pense qu'ils sont assez sensibles, beaucoup plus que nous on l'était. mais il y a encore beaucoup de travail. Et on se rend compte quand même souvent, quand j'étais animateur, je me rendais compte que les enfants étaient un formidable levier par rapport aux parents. C'est-à-dire que quand on faisait quelque chose de constructif dans une école, sur des actions d'éducation à l'environnement, les enfants ont parlé aux parents et souvent c'est les enfants qui les faisaient changer. Donc il faut tout simplement persévérer, il faut qu'il y ait plus de moyens dans ce domaine-là. Tu as raison, ça devrait être une matière obligatoire à l'école. Ça, c'est au même titre que les débats qu'on a autour de la laïcité. Voilà, on devrait avoir des matières... mais qui replace l'homme dans son contexte, tout simplement. Voilà, replacer l'homme dans son contexte, qui est la nature, et de composer avec, et de pas toujours vouloir la canaliser ou comme on le disait aussi, en faire une contrainte. Elle est là, et on a besoin d'elle, tout simplement. Donc, c'est ce message-là. En tout cas, c'est en gros, c'est un peu ce message-là qu'il faut que nos enfants intègrent.
Pour rebondir sur ce que tu disais, Sébastien, je pense qu'on n'arrivera pas à changer de modèle de société en se focalisant sur les contraintes, comme on parlait, les contraintes de l'environnement, les choses qu'il faut qu'on change, les problèmes actuels. On sait que le cerveau a tendance à aller vers les choses positives pour impulser un nouveau modèle auprès de nos générations. Je pense qu'on... Dans une fin de société comme on a besoin de rêves. Et le meilleur levier pour ça, à mon sens, c'est le côté poétique de la nature, le plaisir tout simple qu'on peut avoir à être dehors. Je connais une assistante maternelle qui emmène les enfants qu'elle en garde dans un parc à côté de chez elle tous les jours. La démarche, enfin le... L'imprégnation est inconsciente, mais à mon avis, elle est fondamentale. C'est-à-dire, à la base, donner à des enfants le plaisir d'être dehors, cet aspect poétique, là, en dehors de toutes les problématiques un peu négatives autour de la nature, mais donner cet élan de vie, ce goût du milieu naturel, ce goût d'être dehors, qui par ricochet imprégnera une envie de la conserver et une dynamique peut-être moins basée sur la consommation.
C'est un phénomène qui a été étudié, hein. On appelle ça la mémoire de référence. Et je trouve que c'est un peu, je fais souvent le parallèle avec la musique. Souvent, quand on est gamin, nos parents nous mettent à des cours de musique. C'est pénible, hein, c'est du solfège, c'est des heures de cours en plus, faut y aller le mercredi après-midi, je vous foute avec ses copains, c'est pénible. Et quand on arrive à la fac et qu'on reprend une guitare à 18 ou 20 ans, plaf, toute cette éducation qu'on a pu avoir gamin, ça ressort et du coup c'est valorisé parce que tout de suite on sait jouer un morceau, on a l'oreille musicale et c'est génial. Et à cette mémoire de référence en lien avec la nature. Et les gens qui ont été baignés dans la nature jeune, même si ils partent en région parisienne, ils travaillent sur des métiers qui n'ont rien à voir avec la protection de la nature, ils sont complètement déconnectés. Eh ben, à 25 ans, à 30 ans, ils ont des gamins. Ce retour-là, elle revient en pleine face et ils retrouvent, en fait, dans des périodes de difficulté, après un accident, une maladie, un coup de stress, ce retour à la nature et cette activation de la mémoire de référence les aide à gérer le stress, en fait. Et ça a été prouvé. Hein. Les gens qui se promènent 3 quarts d'heure en forêt tous les jours ont, une meilleure capacité à gérer les hormones, à gérer les hormones de stress. Aux États-Unis, une étude qui a montré que les patients hospitalisés dans des services dont certains avaient une vue par la fenêtre sur un parc ou des arbres et d'autres complètement sur un milieu bâti, ceux qui avaient une vue sur la nature avaient une durée d'hospitalisation moins longue. Aujourd'hui, en forêt, on est submergé de demandes de calinothérapie, de sylvothérapie, de stages de survie, de kung-fu. Les gens ont besoin de ça, de se retrouver dans la nature, de sentir cette ambiance. Alors, il y a des choses un petit peu discutables, hein, la calinothérapie, je suis pas extrêmement fan. Et puis, j'aime pas trop l'anthropomorphisme non plus, mais en attendant, il y a ce besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, la forêt, mais la nature en général, a cette capacité à répondre aux préoccupations environnementales des gens. Et je pense qu'il y a vraiment un souci avec, une solution avec le bien-être de tout le monde. C'est important.
Oui, il y a souvent des publications sur les réseaux sociaux où on dit que l'endroit le plus connecté, c'est la forêt ou quelque chose comme ça. Il faut se reconnecter avec la forêt. Oui, c'est exactement ça, en fait. Mais c'est vrai que je pense que quand on épouse ce métier de naturaliste, c'est lié justement à nos références d'enfance. C'est parfois des choses complètement anodines, mais qui nous ont marqués. Et donc, et c'est pour ça qu'encore une fois, je crois que l'investissement le plus important, c'est pour les générations, là, nous, les jeunes générations, si on veut vraiment impulser un mouvement pérenne, en tout cas, c'est vers eux qu'il faut se tourner. Nous, bon, voilà, c'est, les gens de notre âge, c'est plus compliqué, on le voit.
On a ce rôle de passeur, il faut l'activer. Il y a pas de coup d'épée dans l'eau, hein. Je pense que le moindre message passé sera. Moi, j'ai l'impression dans mon métier, c'est ça, de semer des graines partout. Et certaines, j'espère, germeront un jour. Voilà, j'espère.
En ce qui me concerne, j'ai sûrement des connaissances assez orientées, mais dans les générations plus jeunes que la mienne que je connais, j'ai assez confiance en fait. Je sais pas s'il sera trop tard ou pas trop tard, mais je constate dans les 20-30 ans que je connais aujourd'hui une démarche, une prise en compte de l'environnement, un recul par rapport à la société de consommation bien plus important que celui des personnes de mes générations.
Moi, ce qui m'inquiète en fait, c'est qu'on est confronté à une crise sanitaire en ce moment et que ça passe forcément au second plan. Et on a vu beaucoup de choses reculer, des avancées qui avaient été faites ces derniers temps, par l'urgence de la situation. Et par rapport aux jeunes, moi je le vois par rapport à mes enfants, ils ont une faculté d'adaptation à court terme qui fait qu'ils vont faire au plus pressé et au plus urgent. Et ça, la nature, la gestion de notre environnement, de la biodiversité, ça se fait pas à court terme. Donc moi c'est plus ça qui m'inquiète en fait, par rapport justement à ce qui peut nous attendre dans les années qui viennent, que finalement ce domaine-là soit toujours un peu, allez, on verra ça mais plus tard, parce que ça prend du temps, et voilà. On est dans l'urgence, en ce moment on est dans l'urgence, on le voit sur tous les débats de société, et malheureusement, c'est un peu passé, je trouve, un petit peu à la trappe là, ces derniers temps quand même.
Ouais, moi je me faisais la réflexion dans un quotidien là, que tout le monde a pratiquement sur sa table. Cet été, pendant tout le confinement du printemps et cet été, il y avait un article sur l'environnement, ou deux ou trois même, tous les jours, dans le quotidien. Et là, je regarde tous les jours exprès, il y en a beaucoup moins. Ouais, on sent que on a passé un virage. C'est plus d'actualité. Alors c'est vrai, on n'est plus au printemps, on n'est plus à l'été, c'est peut-être moins propice de parler de biodiversité ou de nature. Mais pas tant que ça. Il y a un bel article quand même, je crois que la LPO a dû participer sur l'édition du dimanche, là où effectivement il y a au moins un double page, mais sur le nourrissage des oiseaux l'hiver, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus anecdotique au printemps.
Puis il faut les comprendre, hein. Moi personnellement, si j'avais 15 ou 16 ans en ce moment, je me dirais, mais waouh, qu'est-ce que je vais devenir demain? Qu'est-ce que je vais être demain? Là, c'est dans l'urgence en fait. Je le vois bien à travers mes enfants. Ils n'ont pas de perspective vraiment d'avenir. Donc, essayer de leur faire comprendre que ouais, mais c'est super important de protéger la nature parce que tu comprends. Voilà, moi ça m'inquiète en fait. C'est plus ça qui m'inquiète en ce moment.
Et au-delà de ça, malgré tout, dans une perspective à moyen terme, on a presque plus de certitude de pouvoir encore se balader en forêt d'ici 5 ans que d'être dans une situation économique viable.
C'est vrai.
C'est important, je sais plus, c'est toi, Didier, je crois que tu as parlé de rêve, là, c'est important de tenir le rêve. Le projet de Francis Allais, moi je trouve que c'est ça, c'est 70 000 hectares de forêt, c'est un peu compliqué, mais il passe peut-être pour un utopiste, mais moi ce qui me plaît dans son projet, c'est le droit de rêver encore, de dire on peut se projeter à 1000 ans, et peut-être que dans 1000 ans, on aura une forêt de 70 000 hectares en France. Juste, même pas, enfin, pas gérer, pas une forêt utile, comme on peut l'avoir aujourd'hui avec des forêts qui doivent sortir du bois, non, juste une forêt où on laisse complètement évoluer la nature. Et moi, alors ça, déjà, moi, je trouve que c'est on sort de nos cadres un peu contraints là, de cette société-là, c'est bien. Rêver, c'est important.
Le jour, j'ai écouté, j'ai pensé à toi, Michael, parce que j'ai écouté, j'ai regardé une émission ce soir avec Zemmour. Bon après voilà, moi j'ai rien à dire sur ce monsieur, mais en tout cas c'est un peu l'épreuve de comptoir à ce temps-là, hein, et tout le monde y va de son idée, tout le monde est décidé sur tout, et ils ont parlé de l'ONF, ils ont parlé de la gestion catastrophique de la forêt, qu'elle était sous-exploitée, que c'était scandaleux presque. Bon après voilà, comme je vous dis, c'est l'apéro du coin, hein, et du coup à la fin, ils sont complètement contredits, parce qu'ils ont parlé, oui, mais En gros, il disait qu'elle n'était pas assez exploitée. Oui, mais en même temps, c'est des réservoirs de biodiversité énormes, etc. Et voilà. Le problème, c'est que ça, c'est, voilà, ça passe à des heures de grande écoute.
Il y a encore du travail.
Ouais, il y a du travail.
On va passer au témoignage suivant, du coup.
Ce qui me fait peur, c'est que, si vous voulez, quand je vois ce qu'on est en train de vivre, j'ai l'impression que, même avec le Covid et tout ça, j'ai l'impression que... On ne veut quand même pas se remettre en question. Je suis sûr que le Covid passé, tout ceci, on va vouloir repartir. Déjà, on en parle, on le voit bien. Ça ne reviendra normalement pas en 2023. Ça veut dire qu'on veut déjà revenir comme on était. Pour moi, on n'en retire pas une leçon déjà actuellement. Il faut dire, bon, ben maintenant, calme. Mais on ne rattrapera pas les erreurs.
C'est exactement ce que j'ai pensé lors du premier confinement, que j'ai plutôt bien vécu finalement. Comme beaucoup, je pense, pas tous, ben évidemment, mais moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça, avec un petit espoir, en fait, derrière. Non, mais sérieux.
Oui, je souris parce qu'on a tous eu le même, je pense.
Ouais. Et en se disant, ah, enfin une prise de conscience. Les gens vont se poser, ils vont se dire, ah, on va se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on fout là, quel est notre, enfin voilà, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on peut faire et avoir un regard différent sur l'environnement. Et en discutant avec des gens, il y en a beaucoup qui disaient que finalement le confinement il aurait dû durer beaucoup plus longtemps que ça, le premier, parce que ça aurait ancré davantage ce sentiment chez les gens. Mais non, malheureusement, dès que ça a duré 3 mois, tu crois, 4 mois, je sais plus, tout est reparti comme en 14, quoi. C'était tellement moins important. Et il faut comprendre. Enfin, je veux pas du tout occulter le fait que, voilà, économiquement, c'est évident. Ce serait absurde d'être contre ce fait-là. Mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça au départ. C'est sûr, comme tu le disais tout à l'heure, le deuxième confinement, non, on n'a pas du tout le même état d'esprit.
Et à la fois, il est sûrement encore un peu tôt pour pouvoir tirer une vraie analyse sur ce que ce confinement aura pu amener dans notre société.
Oui, et ben justement, on va parler maintenant de qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chacun à notre échelle, qu'est-ce qu'il faut faire.
Si chacun de son côté peut faire un petit effort, ça pourrait être pas mal.
C'était court.
Ça, c'était la petite introduction pour cette partie.
Bon, pour citer encore Pierre Rabhi, je le citais déjà tout à l'heure, on va le reciter. Hein, c'est le principe du colibri, chacun fait sa part. Ça peut paraître anecdotique, mais je pense que tout cumulé, hein, c'est les petites rivières qui font les grands ruisseaux. Hein, je pense qu'il faut, il faut pas minimiser le moindre geste. Hein. Je prends l'exemple des hôtels à insectes ou des nichoirs pour oiseaux. Surtout les hôtels à insectes. Les hôtels à insectes, tout le monde commence à en avoir. L'efficacité est assez discutable, hein. Par contre, moi je trouve que l'impact il est assez fort quand même. Alors effectivement, il y a quelques abeilles qui vont te mettre dedans, quelques espèces solitaires, mais je pense que le tas d'herbes au fond du jardin ou le bout de tronc mort joue largement ce rôle-là. Par contre, c'est un truc qu'on peut faire avec ses gamins, c'est un truc qu'on va discuter avec le voisin par-dessus là, il dira « Ah, t'as fait un hôtel à insectes ». Souvent, on y donne quand même un côté un peu esthétique, c'est assez joli. Ça génère de la discussion, ça génère du lien social, ça génère, je vais pas dire de la jalousie, mais du coup, voilà, pareil, quand on fait un nichoir, moi, ce que j'explique aux gens, c'est pas le travail que vous avez fait, c'est pas l'essentiel, c'est pas d'avoir 1000 nichoirs dans le jardin. Ce qui va être important maintenant, c'est de voir ce qui s'y passe. Prenez le temps, posez-vous, et pendant le confinement, les gens l'ont fait. Prenez le temps de regarder ce qui se passe dans votre nichoir, et là, vous allez voir des oiseaux, vous allez voir du nourrissage, vous allez voir des choses vraiment intéressantes. C'est pas le fait d'avoir fait nichoir, de l'avoir mis, le travail s'arrête pas là. Le travail, il faut continuer, il faut observer les animaux. Et là, je pense que c'est important. Donc, tout compte, hein, je pense que tout compte. Et surtout, il faut se faire plaisir. Quand on fait de la biodiversité, il faut pas y aller sous la contrainte. Quand on est, nous, c'est notre travail. Alors forcément, il y a des missions moins agréables que d'autres. Mais pour les particuliers, tout compte. Il faut y aller. Je pense que c'est vraiment important. Faire un petit peu de jardinage, même sur un balcon, dans une jardinière. Regarder, nourrir un oiseau, mettre quelques mangeoires, tout compte aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a plus de petits efforts, tout compte.
C'est vrai que nous, dans nos refuges, le plus petit, ce sont des balcons, souvent. Avec, comme tu dis, des jardinières, c'est le principe qui compte. Et puis c'est de prendre conscience que la nature c'est pas une affaire de spécialiste, la préservation de la nature. Et c'est vrai que quand on a lancé nous ce programme de refuge, c'est là que je vois mon truc. C'est en ce moment là, maintenant. Non mais ça peut être n'importe quel autre. Mais l'objectif il était vraiment d'expliquer que la nature nous concerne tous, qu'elle n'est pas l'affaire de spécialistes, que ce n'est pas réservé à une caste qui va aller dans une réserve naturelle, c'est les seuls à pouvoir aller dans cette réserve naturelle, que tout le monde peut agir justement à son niveau. Et au-delà de ça, c'est essayer de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, parce que tu parlais de nichoirs, de gîtes, de mangeoires, c'est un bon début. Parce que ça permet de comprendre que le gîte en lui-même ne sert à rien s'il n'y a pas la nourriture autour. Donc c'est un point de départ. Nous, quand on installe des nichoirs dans nos actions, ils n'ont pas d'intérêt réel pour les oiseaux, parce que souvent, il y a ce qu'il faut déjà. Ça a surtout une visée pédagogique. C'est de montrer que, ah tiens, il y a des nichoirs, ils font des choses, tiens, mais pourquoi, quelle espèce, ah oui, cette espèce-là, etc. Dans certains nichoirs, on met même des caméras. Et ça, les gens sont souvent assez passionnés de voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Il faut amorcer la chose, en fait. Et à partir de là, on a envie de le faire dans son jardin. On a envie de se dire, bah, pourquoi moi, j'aurais pas des mésanges? Pourquoi j'aurais pas des abeilles dans mon gîte, dans mon hôtel à insectes? Et comment faire en effet pour donc à partir de là on peut en effet discuter de produits phytosanitaires etc et sensibiliser réellement à cette problématique là.
Il faut que les gens s'approprient, hein. C'est vrai que quand on a mis un nichoir, qu'on l'a observé, qu'on l'a construit avec ses enfants, qu'on l'a nettoyé l'hiver, qu'on l'a remis le printemps d'après, on s'approprie du coup un peu l'histoire de ce nichoir et du coup on a un attachement un peu différent, on a un investissement, c'est un peu différent. Et effectivement, à partir de là, si on trouve une mésange morte au pied du nichoir parce qu'elle a bouffé des granules bleues, là on se dit ah, peut-être effectivement la mal agit, on peut faire autrement. Je pense que c'est vraiment c'est important de s'approprier son territoire et faut déculpabiliser la nature, elle n'est pas que dans les grands espaces. Moi, je sais que j'ai une association, je fais des petites sorties sur la découverte du patrimoine naturel, notamment des oiseaux, et je fais exprès de faire des sorties. On part du bourg et on finit dans le bourg, et on passe dans les lotissements. À la fin de la sortie de 2 heures, on a contacté 35 espèces d'oiseaux. Et là, les gens, je savais pas comment ça se fait. Bah oui, il n'y a pas besoin de prendre la bagnole pour aller faire 40 bandes pour dans un espace naturel. La nature, elle est tout autour de nous. Il faut juste prendre le temps, savoir l'écouteur. Il y a des codes, hein, c'est sûr. C'est mieux de connaître un peu les champs, mais en attendant, même avec une paire de jumelles. Et je sais que, enfin, voilà, des gens viennent. On est de plus en plus nombreux à ces sorties. Et des espèces qui sont relativement communes, hein, quand on parle de pouillot véloce, de bruyant, de serin. Les gens n'ont jamais entendu parler. Alors, là, ils sont contents. Après, ils achètent un guide, ils regardent, ils passent du temps avec les enfants. Et c'est vraiment... je pense qu'il n'y a pas de petites actions. Il faut vraiment y aller.
Moi, j'aurais envie de rebondir sur l'enjeu du temps dont tu parlais. C'est-à-dire que nous sommes dans une société de plus en plus pressée, où la technologie s'infiltre partout, quoi. On peut être aux toilettes avec son téléphone portable. On n'a plus aucun espace de temps vide. Et que il y a sûrement un enjeu dans le rapport à l'environnement qui est de pouvoir remettre un peu de vide dans nos emplois du temps. Justement, ne serait-ce que pour après construire un nichoir, pour juste se poser, regarder la nature autour, faire une balade en forêt, et qu'il y a presque un vrai combat social là-dedans, d'arriver à s'extraire un peu du rythme de plus en plus.
Numérique, ouais.
Rapide, où le numérique a un rôle énorme, quoi. Mais c'est il y a une vraie action militante, on va dire, d'arriver à un moment à mettre son téléphone de côté et de se dire, voilà, au lieu de regarder une demi-heure mon téléphone, je vais me poser une demi-heure dehors et juste regarder le coucher de soleil.
Le téléphone est un formidable outil, et nous-mêmes, naturalistes, on l'utilise, hein, mais ça reste qu'un outil. Voilà, ça doit rester qu'un outil. Et. Malheureusement, oui. C'est vrai que nous-mêmes, des fois, on se fait un peu avoir. Hein,
Et du coup, concrètement, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils à nos auditeurs s'ils ont un jardin, ou même s'ils n'ont pas, justement, pas de jardin, qu'ils habitent en immeuble? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on ne s'y connaît pas du tout, dans un premier temps, et vers qui se tourner pour être épaulé, pour se renseigner?
Bon, je vais faire de la pub pour la LPO, parce que
Non, je fais surtout de la pub pour les associations naturalistes d'une manière générale. En
je pensais au refuge LPO, qui est un produit LPO qui est simple et qu'effectivement, il n'y a pas de limite d'échelle. Donc, on peut le faire sur un balcon et mettre un nichoir sur un balcon. Ça marche pas, mais souvent ça marche quand même. Une mangeoire, ça marche. Quand on a un peu de terrain, moi j'ai une mare dans mon jardin. Honnêtement, ma maison, j'ai pas acheté la maison, j'ai acheté le jardin avec la mare. Et là, je me suis dit, waouh, je vais mettre bien. Là. Et franchement, j'ai passé des fois une heure ou deux heures allongé dans l'herbe comme un petit Candy, là, comme le petit Adrien Desfossés là, de la Hulotte, à regarder ce qui se passe dans l'eau. Mais franchement, ça vaut tous les antidépresseurs.
Ah bah c'est clair. Pense-toi, tu penses à rien d'autre.
Merde, la soupe. Non, c'est important. Hein. Mais tu vois, il n'y a pas de règles. Hein,
Non, mais ça peut être ça comme ça peut être la musique. On a des exemples aussi d'enfants qui se sont complètement épanouis, qui ont passé leur adolescence, moi j'en ai dans mon environnement, grâce à une passion. Je pense que c'est ça en fait, c'est la passion surtout. Là tu parlais de la passion de la nature, l'observation de la nature, mais ça peut être d'autres passions aussi. C'est ça qu'il faut pas oublier en fait, c'est d'avoir une passion, qu'importe la passion finalement.
En termes d'action concrète, puisque si j'ai bien compris, c'est un peu aussi l'objet de la question. C'est sûr qu'il est beaucoup plus facile de mettre en œuvre des choses en campagne qu'en ville. Enfin, vous me contredirez peut-être. Mais dès qu'on a un bout de jardin, on peut effectivement mettre un hôtel insecte, mettre un nichoir, on peut tout simplement faire du compost. Il y a tout un tas de choses assez évidentes qui sont peut-être plus complexes à mettre en œuvre dans un milieu urbain. Mais après, il y a l'autre levier indirect qui est celui de la responsabilité de la consommation et des produits qu'on achète, de leur origine, qui vont avoir un impact indirect sur la biodiversité.
Et je pense que beaucoup de personnes tondent leur jardin pour qu'il soit propre. Est-ce que le fait de tondre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut tondre ? À quelle fréquence ?
Mais j'adore le mot que tu as utilisé, propre. Ah, je pense qu'en fait, tu as fait exprès, hein, parce que je te connais. Voilà, là, on arrive vraiment dans la sémantique. Qu'est-ce qu'un jardin propre ? Dans l'esprit des gens, un jardin propre, c'est un jardin qui est au carré, à la française, tondu, où il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse.
Donc, juste, je t'interromps 10 secondes pour dire qu'on en revient à la notion de tout à l'heure de penser que la nature et la biodiversité ne peut se développer que si on intervient.
Ah oui, c'est carrément ça. Et c'est le principal défi. Tu parlais des refuges tout à l'heure. Moi, ça me fait plaisir qu'on en parle. Parce que je trouve que c'est une action, en effet, qui l'illustre bien. Le principal message qu'on a du mal à faire passer, c'est ça. C'est de laisser des zones enherbées qu'on va faucher une fois par an. Parce que aussitôt, la première chose qui nous revient, c'est « Ah bah ouais, mais ça fait pas propre ». Donc, pourquoi on le fait, il faut vraiment absolument l'expliquer. Expliquer pourquoi telle ou telle espèce animale, les insectes en particulier, ont besoin de ce stade de végétal pour boucler leur cycle de vie, etc. Donc, c'est là une des premières choses qu'on peut faire. J'ai discuté l'autre fois avec des salariés d'une entreprise. Ouais, mais moi, j'ai un tout petit jardin, etc. Mais ça, c'est pas grave. Un petit jardin, 10 mètres carrés de micro-habitat en zone de friche, va être intéressant, surtout si vous mettez un hôtel insecte, parce que si vous mettez un hôtel insecte et que vous n'avez pas de zone de friche autour, il n'y aura pas grand-chose. Donc, c'est d'expliquer un petit peu l'objectif de cette prairie. Et puis, alors après, en termes d'esthétique, là, je veux dire, c'est très subjectif. Là, pour le coup, oui, c'est très subjectif. Moi, personnellement, de voir une prairie fleurie, je trouve ça magnifique. D'autres vont trouver ça révulsant, vont vouloir tondre. Mais on se rend compte malgré tout que quand on met en place des prairies de fauche annuelles, si on le fait bien en fauchant régulièrement, en tondant régulièrement le bord de la voirie par exemple, de manière à ce qu'on comprenne qu'il y a une gestion qui est mise en place, une gestion différenciée, là pour le coup on change de regard, on se dit ah bah ouais, finalement c'est pas si moche que ça.
La notion de gestion différenciée, c'est un vieux terme, hein, et la commune de Rennes, enfin la ville de Rennes est un exemple, hein, ça fait au moins 30 ans qu'ils font de la gestion différenciée, c'est une des premières communes de France à le faire. Justement, en différencier, il y a ça. Moi, mon jardin, je le tonds, hein, il y a des périodes où je le tonds, mais il y a des endroits où je ne tonds pas, et c'est vrai qu'au printemps, moi j'aime bien toutes ces plantes un peu vernales, là, le ficaire, les pensées sauvages, je tourne autour en fait quand je tonds, et dans mon jardin, bah, j'ai une partie où qui est un peu tondue, on marche, qui permet de rejoindre le poulailler, le potager, et puis le reste, c'est en herbe folle. Et puis les herbes folles, enfin, folles, c'est encore un autre terme, mais c'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes, enfin, les adventices. Mais en attendant, et jetons aussi celle-là, parce qu'à un moment, la diversité, elle change. Si on laisse venir les graminées, des fois, ils font un petit peu de pression. Il vaut mieux tondre si on veut aussi avoir des plantes à fleurs un peu plus souvent. Et ben, je fais tourner, mais c'est pas grave. Enfin, je trouve que c'est bien on peut faire les deux. Je trouve que ça, c'est faisable.
De toute façon, visuellement, un jardin qui est entretenu, comme tu le dis, qui est structuré, paraît beaucoup plus grand.
Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais,
c'est vrai ça qu'il faut dire aux gens, parce qu'on est quand même à la course. Ouais, t'as combien de terrain? Ouais, j'ai ça. J'ai ça.
Tu parlais de l'échelle. C'est vrai que j'ai un jardin assez grand, hein, mais j'ai une mare dans mon jardin qui fait à peu près 4 mètres de diamètre. C'est pas non plus une très grande mare. Eh ben, vous seriez surpris, hein, le nombre de bestioles que j'ai dedans. J'ai au moins, 8 ou 10 espèces de libellules. J'ai 9 espèces d'amphibiens. J'ai un martin pêcheur qui vient dedans. Et pourtant, je suis pas sur une rivière, hein. Donc, il vient dedans. J'ai un couple de canards. J'ai des hérons qui viennent autour de la mare. Ça attire un point d'eau. On parlait tout de suite, là, de quelles actions on peut faire. Si vous avez la chance d'avoir un petit peu de terrain, faites un petit point d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau à venir naturellement, reliez-le à la gouttière. La gouttière, vous faites une petite tranchée de 5-6 mètres qui permet d'alimenter avec l'eau du toit et vous allez avoir une richesse qui va se développer dans le jardin. C'est
surtout pas de poissons.
Et ouais, évitez de mettre des poissons parce que c'est assez peu compatible, surtout des gros poissons rouges. Vous allez voir les chauves-souris aussi qui vont tourner autour, ça va apporter énormément de vie. Vraiment, c'est important. Et sur les actions, tu dis pas en ville, c'est vrai que c'est compliqué. Hein, si on habite dans un immeuble, dans un appartement, on n'a pas trop le levier. Par contre, on a la possibilité d'interpeller nos élus. Et nos élus sont de plus en plus sensibles à ça. Et faire la gestion différenciée pour les communes, ça devrait venir. Bon, c'est devenu presque une obligation aujourd'hui. Ils le font. Et c'est vrai qu'il y a encore une opposition de certaines catégories de la population qui dit voilà, moi, je paye pas des impôts pour avoir une friche à côté de chez moi. Alors, il faut les éduquer, ces gens-là. Puis il faut leur montrer aussi que c'est une décision politique. Ça, c'est important. Les nichoirs hirondelles dans les communes, combien de nichoirs hirondelles sautent parce qu'on veut ravaler la façade de la mairie ou de l'école publique, et sous prétexte c'est d'intérêt public majeur. Moi, je vois pas en quoi un ravalement de façade est d'intérêt public majeur. Et les hirondelles, on peut très bien les laisser, hein, parce que la plupart du temps elles sont sous le toit dans la zone d'ombre. Je veux dire, ça a aucun impact esthétique, donc gardons les hirondelles. De toute façon, c'est une obligation de la loi, c'est une espèce protégée, on n'a pas le droit de les dégommer. Donc il y a plein de petites actions comme ça. Il y a des associations communales, hein, locales, il y a des plus grosses associations, mais il y en a aussi qui interviennent à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité. Adhérer. Je vais pas faire de la pub pour mon association, mais voilà, c'est quelques euros, l'adhésion. Ça va jusqu'à 10-15 euros, mais des fois c'est encore moins que ça. Et vous allez recevoir des tonnes de mails, vous allez recevoir des propositions de sortie. Vous en faites une dans l'année, mais franchement, quand l'adhésion a coûté 5 euros, si c'est pour faire une balade de 2 heures, ça s'est déjà rentabilisé, quoi. Et vous allez avoir une tonne d'informations, vous allez rencontrer d'autres gens avec d'autres centres d'intérêt.
C'est du lien social.
C'est du lien social, l'environnement. Donc, je pense que tout le monde vraiment peut agir à tous les niveaux. Il faut pas avoir de retenue. Il faut pas chercher de prétexte. Si on veut, on peut.
Pas de planète sans casse du
nous deux chefs d'État au dernier sommet sur ces sujets. Mes déclarations ont fait sensation.
Si on veut déposer un projet de loi, soyons prudents, c'est un sujet brûlant.
Faut pas non plus faire peur aux investisseurs. Le réchauffement doit pas empêcher la croissance. Me montrez pas du doigt ce plan industriel. Je me plie déjà en réglementation. Beaucoup de pays sont moins tatillons.
Réduire les gaz à effet de serre, je veux aujourd'hui réfléchir. Mais mon résultat ne doit pas en pâtir.
Je dois satisfaire l'envie des actionnaires. L'installation d'une usine de retraitement pourrait m'obliger à délocaliser ce monde et sans scrupules. La concurrence est dure.
Pas de planète sans casser de CO2.
Si c'est pas toi, si c'est pas moi.
On fait pas de planète sans casser de CO2.
Si personne n'est responsable.
Pas de planète sans casser de CO2.
Qui s'occupe de ce paquet encombrant.
On fait pas de planète.
J'aimerais en parler, nous dit le journaliste.
Mais comment critiquer ce qui l'écologie nous fait croûter. N'oubliez pas que la télé vit de la publicité.
Les compagnies pétrolières, les grandes marques de beauté, ce qui nous dit le plus bonheur, n'apprécie pas qu'on les traite de pollueurs.
Vous êtes gonflé, dit la vache à lait. J'avoue, je fais des proutes. Oui, je fais des proutes. Dois-je vous rappeler qui m'a domestiqué? Elle avait enfermé dans des box en béton. On m'assémine, on me gave de farine.
Pas de planète sans casser de CO2.
Si c'est pas toi, si c'est pas moi,
on fait pas de planète sans casser de CO2.
Si personne n'est responsable,
pas de planète sans casser de CO2.
Qui s'occupe de ce paquet encombrant?
On fait pas de planète sans casser de CO2.
Raisonnable, dit le scientifique.
Mon boulot c'est de chercher, pas de contrôler comment mes travaux seront utilisés.
Voyez l'état de la recherche. Quand le pouvoir s'en lave les mains, on mesure pas les conséquences. Et c'est la nature qui paie la facture.
Qui a fait un trou dans le sol?
Je suis pas décideur, appelle citoyen. Vous nous invitez à consommer différemment, mais faudrait encore en avoir les moyens.
J'ai pas fait des économies, un crédit pour ma nouvelle voiture, et la laisser au garage pour m'entasser dans les transports en commun.
On nous fait préférer les produits emballés, hygiéniques, esthétiques, carrément épatants. Paradoxalement, nous devenons coupables, irresponsables par nos choix polluants.
Pas de planète sans casser de CO2.